Bonjour, chers publics. Bienvenue à On parle techno. Je suis Nicole Martel, PDG de l'Acuité, et je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui, en collaboration avec Investissement Québec, une discussion portant sur la croissance. Notre partenaire de longue date, Investissement Québec, a tout comme l'Acuité pour objectif de soutenir les entreprises d'ici et de contribuer au développement économique de la province. Au nom de notre communauté techno, nous vous remercions d'accompagner nos PME québécoises dans la réalisation de leurs projets d'innovation. Aujourd'hui, pour parler croissance, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Bazinet, PDG de FX Innovation, François-Jérôme Gosselin, PDG de Novatez, et Joël Bussière, PDG de Libéo. Merci à vous trois d'être avec nous.
Merci, Nicole.
Et pour animer la discussion, j'accueille mon collègue DGA de l'Acuité, Marc Lapointe. Merci, Marc. Bonjour.
Bonjour, Nicole. Bonjour à vous tous.
Donc, avant de se lancer dans les conversations, permettez-moi de vous présenter nos invités un peu plus en détail. Guillaume Bazinet, vous œuvrez dans le secteur des technologies depuis une vingtaine d'années, cofondateur en 2002 de FX Innovation. Vous êtes le PDG de FX depuis 2020. FX, on le sait, joue un rôle majeur en accompagnant les entreprises dans leur parcours de transformation numérique. Parallèlement, vous êtes le président du conseil d'administration du CREM, soit le Centre de recherche informatique de Montréal, faut-il le mentionner. Bienvenue à vous, Guillaume.
Merci, Nicole.
Joël Bussière, vous êtes président et associé de Libéo, une firme de développement d'applications et de logiciels sur mesure qui vise à libérer le potentiel numérique de ses clients. En plus de diriger Libéo, vous veillez à faire vivre les valeurs et la culture de Libéo dans le quotidien de ses 75 employés et ses nombreux et prestigieux clients. Vous êtes aussi associé et dirigeant de Media Happy Geek, propriétaire des réputés sites web Sinoche.com, Showbiz.net et associé de la firme Startup Connect.ai. C'est une firme qui s'adresse au milieu hôtelier. Vous êtes aussi cofondateur et administrateur de Québec Numérique, organisme derrière le Web à Québec et 42 Québec. Bonjour Joël, bienvenue.
Bonjour, merci Nicole.
Et enfin, François-Jérôme Gosselin, vous êtes PDG de Novatez, une entreprise que vous avez cofondée en 2014 avec un objectif en tête, celui de repousser les limites du commerce en ligne. Novatez conçoit et met en œuvre des stratégies innovantes et complexes qui permettent à ses clients d'atteindre leurs ambitieux objectifs d'affaires. L'entreprise connaît une croissance remarquable, ayant triplé son équipe dans les 18 derniers mois et desservant des marques québécoises connu à l'international. Bonjour François Jérôme, bienvenue.
Bonjour Nicolas, merci.
Comme vous le voyez, trois invités bien placés donc pour aborder ce thème de la croissance. Marc, je te laisse la parole.
Alors, tout d'abord, on le voit là, vous travaillez tous les trois non seulement à faire croître vos propres entreprises, mais aussi à outiller les entrepreneurs qui viennent vous voir pour que la croissance s'opère chez eux. Ainsi, on le voit dans vos rôles d'accompagnateur, de mentor, de fondateur ou de collaborateur à l'écosystème. Quand on parle de croissance au sein d'entreprise, on parle de quoi au juste? Est-ce qu'on le mesure en nombre d'employés, l'augmentation du chiffre d'affaires, l'expansion des activités à l'étranger notamment? Guillaume, grande question. Je te laisse commencer pour nous expliquer quelle est la croissance pour toi.
Bien, la croissance pour moi, Marc, c'est dans un premier temps l'accomplissement de ton plan d'affaires. Il y a plusieurs réponses à cette question-là, comme tu l'as bien évoqué. C'est d'atteindre ses grands objectifs. Donc, c'est sûr que ça peut se traduire par un chiffre d'affaires, par un nombre d'employés, par des buts, tu parlais de géographie, par exemple, fait que c'est certain que ça peut être aussi de conquérir des nouveaux marchés. Donc, c'est l'atteinte de ces grands objectifs qui font partie d'un plan d'affaires.
Et pour toi, Joël, chez Libéo qui s'est d'ailleurs classé pendant 8 années dans le palmarès croissance 500 du Canada, comment on la mesure, la croissance à l'interne ou entrepreneuriale chez vous?
Bien sûr, on va toujours regarder à la fin de l'année les revenus, les profits, mais pour nous, ça a tout le temps été une question de nombre de personnes dans notre équipe. C'est pas un vanity metric, mais c'est vraiment, on est fiers de bâtir une équipe. C'est ce qu'on cherche à faire en premier lieu. Fait que la croissance, bien sûr, plus tu as de gens dans ton équipe, en théorie, plus tu vas avoir de revenus. Mais nous, c'est ce qu'on veut bâtir, une équipe de gens. On est une firme de service, donc les gens qu'on embauche sont au service de nos clients, puis par la force des choses, vont produire des revenus. Mais on est très fiers de calculer le nombre d'employés, le nombre de membres dans notre équipe, puis de tenter à croître ce nombre-là, malgré toutes les difficultés de pénurie de main-d'œuvre actuellement.
Et pour toi, François-Jérôme, quels sont les signes qu'une croissance est saine et qu'elle vous accompagne dans votre entreprise?
Comme Guillaume disait, je pense que le plus important, c'est effectivement d'atteindre ses objectifs d'affaires. Comme Joey dit aussi, moi-même, étant dans une firme de service, c'est sûr que ça passe beaucoup par le nombre d'employés. employés. Évidemment, puis tu sais, ben, il y a un contexte d'efficacité aussi toujours, fait que de continuer à améliorer ses processus, ses méthodologies, pour être capable de faire plus avec le même nombre ou avec moins, peu importe, ça peut être intéressant. On voit beaucoup d'entreprises de produits aussi là, qui réussissent à avoir des croissances assez importantes puis qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un nombre d'employés extraordinaire, mais c'est un autre modèle d'affaires justement. Fait que je pense que ça dépend vraiment du contexte d'entreprise, mais si on a un but clair, qu'il soit géographique, qu'il soit en termes de croissance d'employés ou de revenus, bien, souvent, ça va être un mix de ces choses-là. Puis évidemment, si on est capable de rester dans le positif à la fin de l'année, c'est bien aussi.
Encore mieux. Ben, avec ton dernier commentaire, je vais te lancer la courbe suivante. Est-ce qu'on peut la rater, sa croissance?
Je pense que oui. Nous, on a fait un choix d'être assez organique là, dans notre croissance, si c'est le bon mot. Là. En fait, on est rarement allé se mettre une pression financière externe pour faire quelque chose de démesuré. Tu sais, c'est sûr que peut-être dans le service, c'est plus naturel comme façon de faire. Des fois, dans le produit, c'est moins évident de lancer ça, excusez pour les mots anglais, là, mais lean and mean, là, disons ça comme ça. Donc, je pense que oui, c'est possible de le rater si tu accumules avec certaines années un certain succès, un certain cash flow, puis là, tu décides que tu vas réinvestir tout dans ta croissance, mais que ton plan, il ne l'accompagne pas nécessairement. Fait que je pense qu'il faut que ce soit accompagné naturellement d'un plan stratégique assez solide si on décide d'avoir une croissance qui est un objectif ambitieux, là, finalement. Fait que ce soit d'aller chercher un certain nombre de clients nouveaux, chiffre d'affaires, puis le comment aller les chercher aussi. Fait que c'est de tout bien mesurer ça pour s'assurer que quand on commence ce plan-là de croissance, qu'elle reste suivre, là, finalement.
Comment ça s'est passé au sein de vos entreprises, Guillaume? Commençons par toi. 20 ans chez FX, tu as donc deux décennies derrière la cravate vers lesquelles tu peux te tourner et te dire comment ça s'est passé, faire une évaluation de la croissance à l'interne. C'est quoi les stratégies qui ont été déployées pour la maintenir puis assurer la pérennité? Parce qu'on sait que le succès, c'est aussi la pérennité. Puis, as-tu des bons coups ou des moins bons coups que tu voudrais nous partager?
Très bonne question, Marc. Essayer de résumer presque 20 ans en une minute, c'est difficile. Mais je vais essayer d'être succinct. Puis, ce que je dirais, tu sais, dans un premier temps, tu sais, ce que mes pères viennent de dire, là, je suis tellement d'accord, parce que c'est une question de contexte, puis c'est une question, comment je dirais, d'état d'esprit, pour ne pas utiliser le terme anglais, mindset. Tu sais, pour moi, chaque état d'esprit d'entreprise ou mindset est correct. Ce qui est important, c'est de l'assumer. Des fois, ce que je trouve difficile, c'est plus une entreprise qui véhicule, dit qu'il veut atteindre des objectifs de classe mondiale puis bâtir une entreprise globale, mais que son plan, son financement, son équipe de leadership ne reflète pas ça. T'sais, c'est comme de dire, par exemple, je veux gagner une médaille d'or aux Olympiques, mais je ne suis pas prêt à m'entraîner 4 à 6 heures par jour. Puis on a un programme pour gagner un championnat provincial, puis on veut gagner une médaille d'or aux Olympiques. T'sais, c'est deux mindsets complètement différents. Puis ça ne requiert pas les mêmes investissements, le même niveau, si on veut, d'investissement personnel. Le secret d'FX, c'est qu'on a su s'adapter. Je suis le troisième CEO d'FX, en passant. Fait que c'est déjà une note dans cette direction-là, que l'équipe de leadership, c'est une équipe qui doit évoluer en fonction du contexte, en fonction du plan, puis qu'est-ce qui est exécuté pour les prochains 3-5 ans. Le plan doit être revu, corrigé, doit évoluer énormément, doit s'adapter aux transformations de marché, à l'industrie, aux réalités aussi économiques. Ça demande énormément d'ajustements, tant d'un point de vue leadership, l'équipe de direction, que de son modèle d'affaires, mais aussi des modèles puis des modes de financement. Puis je pense que ce qui amène une pérennité puis une croissance continue soutenue, bien, c'est de toujours faire évoluer l'ensemble de ces éléments-là.
Donner les moyens de ses ambitions, puis y aller le tout pour le tout, là, c'est comme ça qu'on va évoluer puis qu'on va assurer la pérennité.
Puis aussi assumer pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis c'est, tu sais, de vouloir une croissance modérée avec une qualité de vie, c'est très, très bien aussi. Mais vouloir une croissance de classe mondiale puis conquérir plein de nouveaux marchés, ça demande une énergie, un investissement, ce qui est différent pour être conscient de ce que c'est puis être pleinement investi dans une quête comme celle-là qui est intéressante, mais qui est aussi différente.
C'est aussi le cas de l'IBO, là, 25 ans, Joey, depuis sa création. Comment on se renouvelle? Comment on s'adapte autant au niveau de la mission de l'entreprise que des méthodes employées, les plans d'action pour, d'un, demeurer pertinentes et en même temps avancer là, avec l'évolution du temps qui nous suit?
Moi, ça fait pas 20 ans, ça fait 18 ans que je suis là. L'IBO va avoir 25 ans cette année. Fait que moi, je suis arrivé un peu plus tard après sa création. Puis c'est tout à fait un méchant gros défi de pouvoir s'adapter sur 25 ans, de rester pertinent. Puis il y a des moments dans la vie d'entreprise que tu dis, bon, ben, justement, est-ce que tu te remets en question? Est-ce que je suis encore sur le bon? Est-ce que ma mission est correcte? Est-ce que ma raison d'être? Est-ce que mon équipe est correcte? Est-ce que ma position de marché est correcte? Puis tu n'as pas le choix. La réalité, c'est que tu n'as pas le choix de la faire évoluer. Donc, je pense que le secret de l'IBO, c'est que ben, les dirigeants, entre autres, moi, mon associé Jean-François, on a appris notre métier d'entrepreneur, puis on a découvert toutes les réalités d'entreprise au fur et à mesure que l'entreprise avait sa croissance. Donc, on a pu suivre la croissance de notre entreprise, puis je pense que nos connaissances puis nos capacités ont suivi cette évolution-là aussi. C'est ce qui nous a amené ben, justement à certaines périodes, puis à certains moments charnières aussi, ben, de se poser des grandes questions. Est-ce que la raison d'être, est-ce que la mission, est-ce que les valeurs de nos entreprises sont correctes? Est-ce que le marché est encore à l'écoute de ce qu'on offre? Puis on a su à plusieurs moments se réinventer. Donc, à plusieurs moments, on a changé notre positionnement de marché. Encore récemment, puis encore cette année, on va faire un petit repositionnement de marché avec un nouveau slogan, on va communiquer à nos employés un peu une nouvelle grande vision. Donc, c'est très, très important pour nous de savoir où est-ce qu'on s'en va. Puis la réalité, bien, c'est que ça change. Oui, peut-être la grande finalité, ça se ressemble un peu, mais encore là, les moyens d'y arriver puis comment qu'on va y arriver, bien, ça change. Oui, je pense qu'on est des grands visionnaires puis on voit loin, mais maudit qu'on est un petit peu, je dirais, anxieux, mais on n'est pas sûr de nous non plus. Fait qu'on se remet en question toujours. Puis ça permet de ne pas prendre les choses pour acquis.
J'aimerais revenir sur un point qu'a mentionné Guillaume, puis je pense que ça va rejoindre plusieurs dirigeants. Vous avez parlé que chez FX, vous avez eu du changement de leadership à quelques reprises. C'est le cas chez d'autres entreprises aussi. À quel moment on sent qu'on doit faire ce changement de leadership-là?
C'est le propre, on le voit, on a des exemples récents, par exemple, on prend, puis sans me comparer à Amazon, là, mais Jeff Bezos qui a décidé, on l'a vu chez CGI, plus près de nous, quand Serge Godin a décidé. Puis c'est vrai dans toutes les, je dirais, toutes les unités d'affaires ou les groupes de notre organisation. T'sais, un leadership, par exemple, on prend une entreprise en technologie, ben, on va avoir un chef des opérations, on va avoir un directeur soit de la recherche et développement ou du développement ou livraison, par exemple, dans une entreprise de service. Ces leaderships-là aussi, en fonction de la taille, en fonction de la clientèle, en fonction du modèle d'affaires, peuvent avoir évolué. Fait que c'est la même chose pour un président, un CEO, selon les étapes. On regarde les entreprises qui ont vraiment réussi à avoir une croissance soutenue moyen-long terme, c'est rarement le même président, le même CEO, parce que c'est des profils différents selon les stades d'évolution de l'entreprise. Je pense que nous, c'est ça qu'on a su faire. On a eu différentes étapes, c'est là qu'il y a eu des changements de leadership, autant d'un point de vue du président CEO que d'un point de vue aussi des autres rôles importants dans l'organisation dans l'entreprise.
Si tu permets, Nicole, d'avoir complété un peu ce que je voulais dire tantôt, mais tu sais, pour moi, je dis tout le temps qu'une croissance d'entreprise, c'est un peu un escalier. C'est rare qu'une croissance d'entreprise, où tu vas avoir des bouts qui sont assez, une pente assez raide, mais après ça, il y a souvent un plateau. Fait que je décris ça comme un escalier. Puis souvent, on se rend compte que rendu sur un palier, bien, l'équipe qui t'a permis de te rendre à ce palier d'escalier-là, c'est peut-être pas la même équipe qui va te permettre de faire la future phase de croissance. Fait qu'habituellement, à chaque phase de croissance, il y a une portion de ton équipe que tu vas devoir changer. Soit des questions de volonté, puis tu le disais tantôt, Guillaume, mais est-ce qu'il y en a qui ont la volonté de tout remettre l'énergie pour la prochaine phase de croissance avec tout ce que ça implique? Ou certaines personnes, des fois, que ben, je suis bien sur cette phase-là, sur cette marche-là, mais si ton entreprise désire continuer, ben, c'est peut-être pas les bonnes personnes. C'est fait que d'avoir les bonnes personnes sur la bonne chaise, c'est un méchant défi. C'est le problème des choses les plus dures à faire pour un entrepreneur, savoir reconnaître ça, puis dire à quelqu'un, ben, merci beaucoup, tu viens de te donner pendant 5, 6, 7 ans pour notre entreprise, mais t'es plus la bonne personne pour les 6, 7 prochaines années. C'est très difficile au côté humain.
François-Jérôme, je reviens à toi. Novatize est en opération depuis 2014. Vous êtes particulièrement dédié à l'implantation de plateformes pour soutenir le commerce en ligne chez vos clients, puis à la création de solutions marketing. C'est un domaine qui évolue très, très, très vite, puis qui a été encore plus pressé d'évoluer pour cause de la pandémie, là, on le sait. Quelles sont les stratégies d'adaptation que vous avez utilisées pour répondre à la demande? Puis qu'est-ce que la pandémie a changé? Avez-vous dû modifier certaines approches, certaines façons de faire pour aider vos clients?
Oui, bien, effectivement, ça a demandé beaucoup d'adaptation. Tu sais, je suis pas premier à dire qu'il y a eu un avant, puis il va y avoir un après. Tu sais, avant, il fallait qu'on vende le commerce électronique aux entreprises. Avant de vendre Novatize, il fallait expliquer pourquoi les gens, il fallait qu'ils aient en ligne encore au Québec quand on recule juste en 2019, là, quasiment. Là. Fait que je dirais que ça a changé bien des choses parce que maintenant, quand on s'assoit avec les entreprises, il n'y a plus vraiment de question de est-ce que je vais ou est-ce que je ne vais pas. C'est plus, je dois y aller puis je veux y aller pour battre mes compétiteurs puis me positionner comme leader dans mon marché. Ce que ça a changé pour nous aussi, c'est que les entreprises pendant la pandémie, puis ça, je suis vraiment content de l'avoir remarqué au Québec, parce que c'est quelque chose qui se faisait quand même, je pense, plus là, du côté américain, puis on le voyait dans des entreprises, des belles entreprises d'ici, là, comme Good Food, là, qui s'est ramassé public, bon, Frank & Oak qui a été vendu du côté américain. Toutes ces entreprises-là avaient des leaders depuis qui étaient toutes jeunes au niveau technologique, puis qui amenaient la notion du commerce électronique, tu sais, au cœur de toutes les décisions dans leur entreprise. Tu sais. Puis je pense que là, les entreprises commencent à faire ce virage-là un peu, puis intégrer un petit peu plus les technologies même au cœur, plutôt que tout le temps aller en impartition dans des firmes de services, de faire le, si je peux dire ça comme ça, là, la job quotidienne de maintenir une plateforme, de faire son marketing numérique, bref, de runner un petit peu ces opérations de commerce électronique. Maintenant, ça se fait beaucoup plus à l'interne que ça se faisait avant. Puis ça, c'est une bonne chose parce que je pense que ça donne une certaine cadence à l'entreprise, ça donne une certaine indépendance. Puis nous, bien, notre côté, les clients qui excellent le plus, c'est ceux justement qui vont placer des gens clés au cœur du commerce électronique dans leur entreprise. Donc, ce qu'il a fallu qu'on fasse aussi, c'est qu'on se questionne puis qu'on dise, bien, qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour amener une valeur ajoutée maintenant qu'il y a de la compétence qui se développe au sein même des entreprises. Donc, on est allé vraiment se spécialiser dans certains services. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont penser à une firme de commerce électronique comme nous qui vont dire, ah, eux, ils vont me faire une plateforme, par exemple. Oui, on peut le faire. Mais on va aussi venir auditer puis améliorer tes processus de logistique vraiment précisément pour le commerce électronique. On va venir aussi cibler certaines lacunes au niveau marketing quand on parle de marketing automation. Bref, on va faire des missions plus spécifiques dans le commerce électronique, faire de l'analyse de données un petit peu plus poussée. Tout le genre de choses que au day-to-day, une entreprise n'a pas nécessairement besoin de faire, mais quand ils ont besoin d'experts puis quelqu'un qui connaît un petit peu plus ça pour venir l'implanter, bien là, ils vont faire affaire à nous. Fait que ça demande quand même beaucoup de changements parce qu'on ajoute des cordes à notre arc, on s'en va cibler pour des mandats différents. Mais en même temps, bien, je pense que c'est apprécié aussi de la clientèle parce qu'ils ont leur force à l'interne puis ils viennent nous voir pour des mandats plus comme ça.
Guillaume, Joël, vous autres aussi, là, vous avez dû probablement apporter des changements, faire de l'adaptation et tout ça. Pour les BO, Joël, ça a fait quoi la pandémie?
Bien, c'est sûr que ça a été assez insécurisant au début. Je pense que comme tous les entrepreneurs, les premiers mois, ça le fait qu'on a travaillé fort, on n'a pas dormi, puis on se demandait un peu qu'est-ce qui allait arriver. Mais je pense qu'une fois que la poussière est retombée, là, après 2-3 mois, on s'est rendu compte que ça ne serait pas, peut-être pas aussi négatif. Puis finalement, même ça a fini positif. Là, mais au début, c'était bon. Par contre, là, rapidement, on s'est rendu compte que justement, à cause de la pandémie, bien, l'adoption du numérique était accélérée. Des entreprises qui avaient peut-être moins de systèmes en ligne, moins de fonctionnalités en ligne, peu importe quelles étaient ces fonctionnalités-là pour leurs clients, pour leurs utilisateurs, bien, puisque tout le monde était soit rendu en télétravail ou puisque tout le monde devait accéder à distance à des services, nous, ça a accéléré de nombreux projets. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a fait vraiment un boom. Donc, on parle de croissance, mais ça a été un boom de demandes pratiquement à quelques mois. Un an de carnet de commandes qui s'est rempli pour notre équipe. Donc, ça a été super positif. Du côté de nos employés, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter comme tout le monde. On avait une politique de télétravail de peut-être 1 à 2 journées par semaine, mais là, du jour au lendemain, c'était 5 jours par semaine, puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir au bureau. Puis on est encore dans ce mode-là aujourd'hui. Donc, il a fallu beaucoup se réinventer côté culture, côté fonctionnement, ce qui s'est fait assez rapidement. Mais encore aujourd'hui, on est en train de se réadapter puis s'adapter parce que là, on se rend compte que c'est là pour toujours. On ne sait pas quand est-ce encore aujourd'hui qu'on va vraiment dire aux gens, on veut que vous reveniez au bureau. Puis encore là, nous autres, on a décidé d'adopter une politique de télétravail à 100%, puisqu'on va quand même s'attendre à ce qu'on voit de temps en temps nos employés au bureau pour faire des activités, pour faire des journées de formation, fait que faire des événements sociaux ou des événements d'équipe. Fait que ça a été vraiment une question de beaucoup d'adaptation, puis on va falloir continuer de s'adapter parce que le futur est toujours en train de changer, puis on n'a pas le choix de s'adapter.
On ne connaît pas la fin, hein? Merci, Joël. Guillaume, pour vous autres, la pandémie, quel genre d'impact ça a eu?
De notre côté, Marc, nous, on avait amorcé la transition vers un nouveau leadership en janvier, 2 mois avant la pandémie. L'impact a été une accélération du plan de transformation de la nouvelle équipe de leadership. Puis quelque part, ça a été autant des défis qu'une opportunité. C'est sûr que nous, on est chanceux, là, que, comme mes pairs ici, on n'est pas l'industrie qui a été la plus impactée. On a par contre eu des impacts d'un point de vue revenu, je vous dirais les 2 premiers trimestres. Parce que les 2 premiers trimestres de la pandémie, nos clients étaient en train de s'organiser eux-mêmes puis de réapprendre à travailler. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux de disponibilité puis d'organisation du travail pour prendre des projets d'envergure d'un point de vue de transformation digitale numérique. Mais à partir du troisième trimestre suivant la pandémie, là, ça a été une croissance. Ça a été un retour, je dirais, une forme de croissance. Donc, nous, ça nous a permis, les deux trimestres dont je viens de parler, d'accélérer notre transformation. Puis, FX, on a fait une transformation quand même assez importante. Là, on a orienté, en 2002, l'info nuagique n'existait pas. Nos grands partenaires technologiques n'existaient pas ou à peu près pas. Si on parle d'un AWS, on parle de Google Cloud, on parle de ServiceNow, on parle de Microsoft Azure, c'est quatre plateformes qui n'existaient pas à la fondation d'FX. Puis aujourd'hui, sont au cœur de nos grands projets de transformation. Donc, on a vraiment accéléré la transition, la transformation vers un modèle d'affaires uniquement axé sur la transformation digitale numérique avec ces grandes plateformes-là.
Merci, Guillaume. Nicole, tu avais une question?
Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la balle au bon, mais on parle de croissance. Comment on fait pour embaucher ou quelles sont les leçons à retenir quand on embauche en période de pandémie sans avoir vu ses collaborateurs?
Ben, écoute, nous, on a embauché quand même. Avant pandémie, on était 15, 17, puis là, on est une cinquantaine. Je ne sais pas si c'est une question de chance, mais nous, ça faisait longtemps qu'on investissait beaucoup dans la marque employeur. Ce n'est pas une chance. C'était une décision qu'on avait prise. Puis, tu sais, ça a tombé, que ça nous a beaucoup aidé dans la pandémie. Mais ça, je pense que c'est un bon coup qui est à noter dans le sens où tu ne vois jamais un retour immédiat d'un investissement dans une marque employeur. Là, ça se bâtit avec des années. Mais c'est quelque chose qui est super important. Puis que si tu cherches une certaine pérennité d'entreprise, puis aussi, justement, de traverser des coûts où ce qu'il va manquer un petit peu ou beaucoup de personnel dans le marché disponible, tu n'as pas le choix d'avoir une marque employeur qui est reconnue, à mon avis, pour pouvoir passer à travers de ça, parce que tu n'as pas le choix d'aller chercher des gens de façon un petit peu plus directe qu'avant, malheureusement. Là, les gens ne sont pas disponibles sur le marché, sont souvent déjà occupés. Puis quand tu vas les chercher, ben, tu n'as pas le choix d'être toujours plus attirant que le voisin. T'sais, même quand on va chercher quelqu'un, moi, je me dis à l'international plus tard, il va quand même falloir être plus attirant que les autres qui vont aussi aller à l'international. Je pense quelque chose, que s'il y a des gens qui ne le font pas encore, d'investir là-dedans, à mon avis, c'est quelque chose qui presse quand même pas mal plus que d'autres aspects.
Là. Nous autres aussi, ce qui a été nouveau durant la pandémie, c'est, entre guillemets, le recrutement en région. Vu qu'on permettait maintenant le télétravail, puis je dis pas en région, je dis aucunement ça péjorativement, mais historiquement, on voulait des gens qui étaient au bureau. Donc, on avait des employés à Québec et à Montréal, puis si on voulait des employés dans une autre région, ben fallait penser à ouvrir un bureau. Ben maintenant, on est rendu qu'on accepte des employés de n'importe où au Québec, puis on n'a pas eu de cas pour l'instant à l'international ou en dehors du Québec, mais maintenant, on est rendu avec quelqu'un au marketing à Bécomo, on a quelqu'un de l'équipe de développement à Sherbrooke. Là, je pense qu'on est rendu avec une dizaine d'employés sur nos 75 employés qui ne sont pas affiliés directement soit à notre bureau de Québec ou Montréal. Puis ça fait juste continuer à grandir parce que ces gens-là, ben c'est des gens que peut-être aussi historiquement, eux autres n'osaient pas venir travailler ou postuler chez l'IBO. Puis nous autres aussi, on ne regardait pas ces profils-là. Fait que maintenant, ça rouvre complètement un nouveau marché.
Si j'avais moins de cheveux blancs, je pense que vous trois, vous m'auriez donné le goût de partir en business, c'est sûr. Vous êtes inspirants. Merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences, vos points de vue puis vos trucs. Je suis certain que nos auditeurs et nos auditrices seront captivés par les témoignages, autant que moi je l'ai été. Votre franchise, votre candeur puis toute votre énergie a bien transpiré ce matin. Un grand, grand merci.
Merci à vous.
Merci aussi à toi, Marc, d'avoir animé cet échange. Donc, Guillaume Bézinet, Joé Bussière et François-Jérôme Gosselin, merci d'avoir réfléchi à la question de la croissance. Je remercie à nouveau notre partenaire Investissement Québec pour son soutien à nos entreprises techno québécoises. Pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Ajoutez-y les commentaires qui vous ont inspiré aussi pour le bénéfice de tous. Alors, au plaisir de vous lire également. Pour ne rien manquer de nos communications, je vous invite à vous abonner aux communications de l'AQT. C'est simple sur le site aqt.ca. Donc, au plaisir de vous revoir dans une autre capsule. On parle techno.